Radio Champeau.
La radio étudiante de l'Université Champollion d'Albi.
Le jeudi à 16h sur Radio Albigès.
Et suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Champeau sur Radio Albigès, l'émission réalisée par les étudiants de l'Institut Universitaire Champollion d'Albi. Aujourd'hui, Zoé, Loïs et moi-même accueillons les Master 2 en géographie qui nous parleront de leur action au sein du Festival Alimentaire, c'est-à-dire l'organisation d'un ciné-débat autour du film Les Dépossédés le 28 novembre à la scène nationale d'Albi et qui clôturera le festival. Ensuite, nous écouterons Zoé pour une nouvelle chronique autour de l'environnement.
Merci Guillaume. Et donc, comme vous l'avez compris, nous sommes en compagnie de Anaïs, Thomas, Isabelle et Ludo. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Donc bienvenue sur Radio Champeau.
Nous allons commencer par une première question. Est-ce que vous pourrez un peu nous présenter le film qui va être diffusé? C'est le film Les Dépossédés.
Les Dépossédés.
C'est cela?
Ouais, c'est ça.
Oui.
Ouais, ce film, il est présenté dans le cadre du Festival Alimentaire. Qui est un festival qui existe depuis 2007 et qui a pour but d'amener les citoyens à s'interroger un peu sur tous les enjeux agricoles, de la consommation, le local et l'international. Là, le film Les Dépossédés, pour rentrer vraiment dans le détail du film, c'est une présentation de l'agriculture au niveau international et de tout ce qui concerne les problématiques agricoles. Alors qu'on va passer de l'Inde aux problématiques africaines, mais aussi en Suisse, au Canada, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez global, quoi. Un film qui a une vraie problématique globale. Après, oui. Si vous voulez rajouter...
Et pour compléter ce que dit Ludo, le réalisateur, c'est Mathieu Roy. Il est montréalais et le film est sorti en 2017.
Oui, tout à fait. Je confirme.
D'accord, très bien. Et pourquoi avoir choisi ce film en particulier et pas un autre? Peut-être parce qu'il est bien en cadre par rapport au sujet,
par rapport au festival,
parce qu'il vous plaît.
Alors juste pour préciser, c'est vrai que ça aurait pu être un choix, et franchement ça l'aurait été. Alors il y avait 4 films à choisir.
Ah, oui,
celui-là a été choisi et imposé, entre guillemets. Après, je ne sais pas si le terme imposé est de bon aloi, mais en tout cas choisi par nos profs, tout simplement, dans le cadre du Festival Alimentaire. Voilà. Donc c'était pas un choix de notre part. Nous on l'a choisi, on s'est positionné. En fait il y avait 4 films, nous sommes 16, donc il fallait 4 personnes par film. Et nous avons choisi celui-là, nous 4, parce qu'on y était peut-être plus sensible. Voilà, tout simplement.
Mais c'est sûr, c'est un bon sujet en plus.
Ouais, tout à fait.
D'accord, ouais.
Donc du coup ça s'inscrit dans le cadre de votre master?
Oui,
c'est ça.
Mais oui, tout,
oui,
à fait.
Ça, tout à fait.
Et du coup c'est quelque chose, c'est une unité d'enseignement particulière où vous devez présenter un projet. Si vous pourriez nous l'expliquer un petit peu.
Bah, disons que dans le cadre de notre formation, on va être amené à un moment de présenter des projets afin de les valider ou amener certains débats parce qu'on travaille plutôt à cultiver l'intelligence collective puisque notre formation est transdisciplinaire et donc du coup ce genre de débat permet ce sera quelque chose qu'on devra mettre en place à un moment ou à un autre dans notre activité et c'est un bon exercice.
Préparation, oui, tout à fait.
Oui, puis c'est aussi un moyen aussi d'appliquer des méthodes, de faire un plan de communication, la preuve, parce qu'on est ici devant vous, donc voilà, ça en fait partie. Après, il y a les réseaux sociaux, enfin voilà, on essaie de monter tout un projet de A jusqu'à Z et ça fait vraiment partie de notre future profession, logiquement, une fois qu'on aura validé notre master.
D'accord, très bien, oui.
C'était aussi l'occasion de pouvoir travailler avec des associations aussi, parce qu'en fait, il y a une association qui existe ici qui s'appelle Envisage.
Ah oui.
Et c'était aussi l'occasion de pouvoir intégrer Envisage au niveau du master, en fait.
Ah oui, d'accord, donc, c'est très, très bien ça. C'est une association, en plus, elle est de retour. Elle a été abandonnée, je crois.
Elle a été à sommeil.
Bureau.
Oui. Tout à fait.
Donc là, c'est bien de lui refaire un petit peu de pub.
De pub et de redynamiser un peu l'association.
Oui, sûr, ouais.
Tout à fait.
Et du coup, oui, comment la projection va se passer à peu près? Il y aura peut-être des invités, non?
Alors, nous, ce qu'on comptait faire, c'était... donc justement, d'abord, on a fait de la communication donc, avec vous au niveau de la radio et aussi sur les réseaux sociaux pour faire venir du monde. Et après, ce qu'on veut organiser, c'est un petit questionnaire avant la projection du film.
Un apéritif.
Sur, ouais, un apéritif.
Oui.
du coup,
ça va aider.
Pour savoir à peu près ce que j'en pense, voir à peu près les différents profils que... Puis sur... les différents profils que l'on a. Ouais, ce que les gens pensent autour de l'agriculture, de la mondialisation, tout ça. Mmh. Ensuite, qu'on passe le film, et en, après le film, que l'on rediscute en fait, de tout ça, et que l'on fasse un débat autour du film, et également sur le questionnaire que l'on aura passé... avant la projection.
D'accord, ouais, comme que... ça permet de voir un peu avant, après.
Voilà, ça permet de voir l'avant, l'après, de voir
le vocabulaire un petit peu, comment on le comprend avant et après le film, la perception qui peut être différente. Avant de voir le film, on a des a priori, on peut avoir des idées qui, au final, ne sont pas avérées quand on a vraiment les éléments.
C'est sûr, oui.
Et donc, pour répondre encore à ta question aussi, il y aura effectivement un débat à la fin de la projection qui sera logiquement animé par une prof de l'ENSFEA. L'ENSFEA étant l'école nationale supérieure de la formation agricole, c'est-à-dire qu'elle forme des futurs profs d'agriculture, qui vont travailler dans des lycées agricoles, par exemple. Oui. Voilà. Oui. Donc, c'est vraiment une spécialité de la problématique. Voilà, elle enseigne aussi également à l'Université Champollion, Elsa Pibou, pour la citer, voilà, qui logiquement devrait être parmi nous pour animer le débat et répondre aux questions des spectateurs. Donc voilà, le but des questions préalables, c'est de préciser des mots-clés, ouais, effectivement, les définir, pour essayer de voir avec Elsa Pibou, justement, quelles sont les thématiques qui intéressent le public. Pour vraiment que ce soit proche d'eux et répondre à leurs interrogations. Parce que le film, encore une fois, il est complexe, il a beaucoup de choses qui sont dites, présentées, etc. Et donc, je crois que ça va susciter pas mal d'interrogations. Et donc, je pense que le débat sera pas mal.
Il est très prenant, émotionnellement, il est très fort, je trouve.
D'accord, oui.
Parce qu'on se rend compte que la mondialisation et le problème de l'industrialisation à outrance, en fait, ça a été un peu la même construction, le même schéma dans le monde entier. Et ça crée un vrai appauvrissement, en fait, des hommes et de la terre. C'est assez poignant.
C'est sûr,
Tu dis, ça touche tout le monde. En fait, ça touche autant les pays du Sud qu'en fait les pays du Nord. On pourrait se dire par exemple, les pays du Nord sont un peu plus favorisés par rapport au Sud. Alors qu'en fait, non, pas du tout. On rencontre les mêmes problèmes.
Les agriculteurs.
Ouais, avec les agriculteurs, précisément. Que ce soit de l'élevage ou alors de la culture de céréales ou d'autres choses. Ça touche tout le monde. Et alors, effectivement, on voit plusieurs endroits dans le monde. Mais après, nous aussi, ce qu'on veut faire, c'est le recentrer au niveau local. Que justement, les gens... fasse aussi du concret, voit du concret, quoi.
Qu'elle soit applicable vraiment ici, quoi. D'accord. Ouais.
On se rend compte de tout le poids que nous on a en tant que consommateurs et de ce que on consomme et derrière toute la souffrance que ça crée d'acheter ce genre de consommation, en fait.
Qu'en fait, même nous, localement, on va avoir une action ou une influence en fait sur ça. Donc déjà nous au niveau local, on peut faire quelque chose sans forcément attaquer directement à la grande échelle. Mais si déjà on fait tous quelque chose au niveau local, ça aura après ensuite un fort impact sur tout le reste. C'est ça en fait, c'est essayer d'éveiller les consciences pour après...
Exactement, et c'est le but du festival de toute façon, c'est vraiment de s'interroger sur nos pratiques. Nous ici, dans un pays développé où finalement il n'y a pas de grosses problématiques, finalement, mais notre portefeuille peut vraiment solutionner d'énormes problèmes, y compris dans le monde entier, quoi. Donc c'est là où on se dit que le festival a vraiment toute sa place, et je trouve vraiment, j'invite vraiment les gens à aller au festival, mais pas forcément sur... Non, mais parce que tu souris, Elsa, je comprends. Mais Zoé, pardon. C'est vrai qu'il y a pas mal... Le festival dure un mois et demi, je crois. Voilà, donc il y a plus de 600 communes en France qui y participent, une dizaine de pays. Donc c'est pas un microcosme albigeois, c'est vraiment le festival, on peut le retrouver.
Tout à fait. Oui, tout à fait.
Donc d'ailleurs, il y a le site internet, si l'un d'entre vous s'en souvient, allez-y, festival.org, non, quelque chose comme ça.
Festivalalimentaire.org, où il y a toutes les bandes annonces des films qui sont répertoriées.
Et justement, dans quel cadre se pose le film Les Dépossédés que vous présentez, enfin à travers le festival international, est-ce que ça a une vision particulière? Parce que vous parlez justement de l'alimentation et tout ça, est-ce qu'il propose aussi des solutions?
Alors Mathieu Roy, je sais pas, je disais Mathieu Roy, mais bon, écoute, Mathieu Roy, vu qu'il est montréalais, c'est possible. Donc le réalisateur dit que c'est pas un film bonbon. D'ailleurs, un film bonbon, pour lui, c'est un film qui amène une solution. Lui, il dit que c'est pas le but du film. Le but du film, c'est pas d'amener une solution, c'est, ça sera à nous, par le débat et par, avec nos autres collègues qui vont participer à la projection, d'amener des solutions locales, parce que c'est bien ça, la solution, elle passe par le local. Mais le film en lui-même, c'est pas un film qui amène des solutions. Lui, il amène des interrogations. Il veut que tout le monde s'interroge sur sa pratique de la consommation et qui a des répercussions finalement dans le monde entier. Et l'appauvrissement de l'agriculteur et de la plupart des agricultures mondiales sont dus par nos consommations. Acheter un jean a énormément d'impact, par exemple. Bon, c'est vrai que c'est assez banal. Voilà, on se dit, bon, acheter un jean, ouais, ça paraît simple. Et pourtant, ça a un impact sur énormément d'agriculteurs dans le monde, avec des répercussions qui peuvent être fortement négatives sur la partie environnementale, mais aussi économique.
On en fabrique chaque année 2,3 milliards à travers la planète et certains d'entre eux parcourent parfois plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avant d'arriver sur les étagères du magasin de prêt-à-porter. Je vous propose donc de suivre l'itinéraire d'un de ces jeans, l'un des itinéraires les plus longs. Alors, notre histoire, ou plutôt notre voyage, va commencer en Inde, à Ludhiana. Pourquoi dans ce pays ? Eh bien, tout simplement parce que pour faire un jean, il faut du coton et que l'Inde est le premier producteur mondial de coton avec 6 350 000 tonnes par an, au passage, je rappelle. Mais vous l'avez dit que le coton consomme beaucoup d'eau. Pour faire pousser le coton nécessaire à la fabrication d'un jean, il faut 4000 litres d'eau. Puis, ce coton est envoyé chez le voisin, au Pakistan, à Karachi, pour être filé et tissé. Étape suivante, la Chine. 4800 km plus à l'est, Xintang, la capitale du jean, 3000 usines qui vont produire, tenez-vous bien, la toile nécessaire à la fabrication de 800 000 jeans par jour. Voilà, c'est là que la toile va prendre de la couleur. Elle est teinte en bleu indigo. Alors pour cela, les fabricants utilisent un pigment de synthèse. Pour fabriquer 1 kg de ce pigment de synthèse, il faut une centaine de kilos de pétrole, des solvants et 1000 litres d'eau. Voilà, la toile est ensuite envoyée en Tunisie et encore 9500 km de plus. Au compteur, là, elle est assemblée, on va ajouter, vous savez, les petits rivets qui, en général, arrivent d'Australie. La fermeture éclair, c'est devenu une spécialité du Japon. Quant aux boutons, eh bien, très souvent, ils arrivent de République démocratique du Congo. Vous pensez que c'est terminé ? Eh bien non, pas encore. Le jean va maintenant être délavé et envoyé au Bangladesh ou en Égypte. Bangladesh, là, le kilométrage est encore plus important. À Dhaka, l'opération consiste à sabler le jean. C'est une opération très nocive. Il existe un système un peu plus vertueux qui utilise le laser, mais ça, c'est beaucoup plus cher. Voilà, là, le jean est terminé. Il ne reste plus qu'à l'acheminer vers la boutique où il sera vendu. Au moment où ce jean va arriver sur les étagères, il aura consommé environ 11 000 litres d'eau et parcouru 65 000 kilomètres, l'équivalent d'une fois et demie le tour de la Terre, et dire que cette toile a un peu été inventée à Nîmes, dans le sud de la France.
C'est ça, c'est qu'en fait, on se rend compte que ça a un impact sur plein de domaines différents. C'est pas que, par exemple, sur le social, sur la vie de l'agriculteur, ça a aussi un impact sur l'environnement. Donc, et sur l'économie aussi, forcément. Donc, c'est très important.
Très important de faire attention.
C'est ça.
Oui.
Le fait qu'on fasse attention, nous-mêmes, à l'échelle locale, va avoir une répercussion aussi sur ces trois domaines-là. Et donc, ça, c'est à prendre en compte, quoi.
D'accord, très bien.
Parce que le prix que nous, on paye dans nos pays développés, c'est pas le prix que eux payent au niveau humain.
C'est sûr.
Et c'est pas le prix non plus que la planète paye.
C'est ça qu'il faut faire comprendre.
C'est-à-dire qu'on on est basé dans un système uniquement de profit ou d'économie financière, alors que si on reportait le coût de la dette humaine et de la dette de la nature sur le prix, on paierait beaucoup plus cher. Et en fait, c'est ce qui se passera à un moment ou à un autre. Et c'est une manière d'éveiller en fait les consciences et bien de se rendre compte du choix qu'on fait nous en tant que consommateurs et du poids qu'on peut avoir. Qu'on prenne bien conscience que quand on achète tel produit, bah derrière, peut-être que c'est un enfant qui l'a fait, peut-être que derrière, c'est quelqu'un qui est mal nourri. Ben c'est, voilà, c'est ça aussi, oui, se rendre compte de tout ça. Oui.
Mmh. Ben souvent, d'ailleurs, il y a très peu de personnes qui...
Mais on ne se rend pas compte.
Qui pensent, et c'est
oui,
sûr
qui que... Qui prennent conscience, vraiment, véritablement, des enjeux derrière, oui, c'est sûr.
Justement, en réalité, Mathieu Roy, dans son documentaire, il alterne les scènes de la vie quotidienne des paysans, et il alterne le discours de spécialistes, de journalistes, ou alors de locaux. Et en fait, à travers ces paroles-là, il veut que les gens prennent conscience de ce qui se passe dans le monde paysan. Et ça s'intègre dans le festival alimentaire, car justement, le festival, il est là pour nous amener à prendre conscience de nos pratiques et à pourquoi pas les changer. Et justement, à la fin du film, le but pour nous, c'est d'apporter nos solutions à l'échelle locale et donc se rattacher dans le festival alimentaire à l'échelle, par exemple, albigeoise.
Radio Champeau,
la radio étudiante de l'université Champollion d'Albi.
Suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau.
Et du coup, vous êtes les organisateurs donc, de cette projection. Et vous êtes en autonomie pour organiser tout ça ou vous êtes aidés?
Alors, c'est nous qui avons décidé tout à fait de l'organisation nous-mêmes, de ce que nous voulions faire. Après, nous sommes quand même suivis par Charline Marcos, qui travaille à la faculté dans le service culturel, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça, oui.
Alors, en fait, on la tient au courant, mais elle nous laisse quand même régulièrement
un peu libre, quoi,
oui. Juste si on a, par exemple, besoin, je ne sais pas, d'aide ou de... Enfin, pour certaines choses, là, on peut lui demander. Mais on sait quand même, nous, qui nous occupons nous-mêmes de l'organisation, de la présentation, de comment va se dérouler ensuite la séance. Voilà. Donc, non, on est quand même en autonomie.
En demi-autonomie.
Ouais.
Ou encadré, en tout cas.
Je dirais plus que...
Ils nous donnent des outils.
Ils nous donnent des outils, ils nous laissent faire avec ces outils, mais après, c'est nous-mêmes qui les appliquons.
Que ça s'inscrit quand même dans un lieu, voilà, parce que c'était au début, je sais qu'on a évoqué ça, dans un lieu qui nous donne des outils d'animation, d'animation de réunion, d'animation pédagogique, avec des outils modernes ou des outils à base de jeux, de cartes, enfin ça peut être plein d'outils très pratiques pour animer des réunions. Et donc on nous donne ça et ensuite on nous dit ben voilà, vous allez animer, vous allez organiser une projection de ciné-débat. Donc certains de nos collègues animent ça avec des L1 par exemple ou des M1, voilà. D'autres avec, on fait un partenariat avec le lycée Fond Labour aussi pour une projection voilà, entre nous entre guillemets, mais ça permet des mélanges, de rencontrer d'autres profils d'étudiants. Et nous on a la seule séance qui est publique et ouverte au public, et voilà, donc nous on avait un peu plus de communication entre guillemets à réaliser, et c'est pour ça qu'on vous remercie de nous accueillir encore une fois aujourd'hui.
Plaisir. Et c'est quoi le nom de lieu qui, si vous l'avez retenu, c'est quoi le nom de votre lieu?
Alors l'UE, c'est séminaire et politique publique.
C'est ça.
Séminaire des politiques publiques, je crois que c'est ça l'UE.
D'accord. Voilà. Ah oui, bah oui, bah pour ceux qui ne sont pas étudiants forcément, une UE, c'est comment expliquer ça?
Unité d'enseignement déjà.
Une unité d'enseignement.
C'est une matière, quoi. Ouais,
oui,
on peut dire ça.
On peut dire que c'est une matière, en fait.
Là, on est plus en mode projet, entre guillemets. On peut dire ça comme ça. Sauf qu'on le réalise réellement. Donc ça, c'est le côté un peu... Voilà.
Et comme tu l'avais dit tout à l'heure, Ludo, c'est à but aussi, du coup, de nous former plus tard, parce que peut-être que dans nos futurs métiers, on devra faire ça aussi. Donc ça nous sert également aussi, le fait qu'on organise tout seul, certes en ayant eu les outils, en étant un peu encadré, mais en le faisant de notre côté, ça nous permet de nous entraîner pour plus tard, si jamais on devra organiser des débats, des animations, tout ça.
Ah oui, donc,
c'est quand même ça a un but pédagogique.
Mais de toute façon, la force de ce master, c'est beaucoup la pratique. Hein. C'est les ateliers, c'est la mise en pratique de choses qu'on va utiliser par la suite. C'est vraiment une force. Ça va aussi travailler ensemble, parce que c'est pas toujours facile.
Ouais, on apprend le travail en équipe, effectivement.
On veut prendre le dessus à tort, et puis.
C'est vrai.
C'est intéressant, du coup.
D'accord. Vous semblez tous passionnés justement par ce projet. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de votre parcours personnel voilà, au sein du master, pourquoi l'avoir choisi
Anaïs, c'est demain.
Alors, j'ai commencé par une licence de géographie que j'ai effectuée à l'Université de Champollion. Je suis partie un an en master à Avignon et je suis revenue ici pour me spécialiser dans l'environnement, puisque le master, c'est gestion sociale de l'environnement et valorisation des ressources territoriales. pour avoir beaucoup plus de connaissances sur ces thématiques-là. D'autant plus que le master, il est pluridisciplinaire. Donc, on a beaucoup de disciplines telles que la géographie, l'économie, la sociologie. On a aussi de l'écologie et on est avec, en cours avec des écologues. Et le but pour moi, c'est d'arriver à un métier où je pourrais m'occuper de l'environnement, par exemple dans une collectivité ou dans un parc naturel, si possible.
D'accord, bah c'est très très bien en tout cas comme parcours.
Merci.
Pour ma part, j'ai fait une formation scientifique. Donc déjà, j'ai fait un bac S au lycée.
D'accord, ouais.
Ensuite, j'ai fait une licence biologie des organismes à Anglette. Et j'ai fait le M1 BEE, c'est biodiversité, écologie, évolution à Paul Sabatier à Toulouse.
Ouais.
Et ensuite, du coup, je suis arrivé ici en M2 au master GSE, parce que c'est en partenariat entre la fac de Paul Sabatier et de Champollion.
D'accord.
Ouais, la première année se fait à Paul Sabatier, la seconde à Champollion.
D'accord.
Donc moi, j'hésitais au départ entre ce master-là et un master un peu plus naturaliste. Mais après, j'ai préféré plutôt celui-ci parce que, effectivement, c'est un master qui est pluridisciplinaire. Donc, on est des étudiants qui viennent de différents horizons. On a des étudiants qui viennent de géo, des étudiants de sociaux. On a même des personnes qui sont en reprise d'études qui viennent justement dans le master, par exemple, de la banque. Donc,
de
l'économie. Ouais, ouais. Donc, c'est très diversifié comme master. Et chacun apporte, en fait, son approche, les compétences qu'il a dans tel domaine. Et du coup, en fait, on crée une intelligence collective et on arrive à, du coup, à avoir pas qu'une seule approche, mais une approche pluridisciplinaire. Et ça, c'est bien parce que on est trop souvent aujourd'hui dans une matière. Par exemple, si vous choisissez maths, vous allez dans les maths. Si vous faites de la biologie, dans la biologie. Si vous faites de l'économie, c'est économie. Sauf que, en fait, tous ces domaines-là se croisent. Et on n'est pas genre juste. C'est ça. Donc, du coup, ce master-là, une de ses grandes forces, c'est justement cette.
Croiser les horizons.
Voilà. Ça m'a intéressé. Et après. Moi, j'aimerais peut-être plutôt continuer dans tout ce qui est sensibilisation, animation, et essayer
d'accord,
de toucher les gens.
D'accord, ouais, c'est vachement bien. Hein. C'est... Oui.
Et merci, du coup.
C'est un plaisir.
Bon, bah, pour ma part, ça se voit pas à la radio, mais je suis beaucoup plus vieille que tout le monde. Donc, je travaille en banque et la banque dans laquelle je travaillais a fermé. Mais ça fait très très longtemps que je réfléchis à un projet qui touche l'environnement. Moi, j'ai été plutôt élevée à la campagne et je vois bien que depuis des années que tout périclite, quoi. Que voilà, donc ça me touche. Et donc du coup, comme la boîte fermée, moi, j'ai saisi l'occasion de pouvoir me faire payer les études justement par cette opportunité-là. Et ce qui m'a intéressée dans ce master, c'est que quand on regarde un peu la problématique de l'environnement, ce sont des sujets extrêmement complexes. Mmh. Et d'une part, je suis convaincue que c'est parce qu'on va s'unir dans l'ensemble de nos degrés de compétences. Et parce que les hommes vont s'unir, qu'on va pouvoir, en fin de compte, pouvoir faire améliorer le système. Et la force de ce master, je trouve, c'est que ça permet d'avoir une certaine approche, d'avoir cette complexité. C'est-à-dire qu'avec la trans, comme tu disais, Thomas, les différentes matières qu'il peut avoir, même si moi-même, je serais une experte en rien, hein, puisque en banque, je ne suis pas écologue, je ne suis pas géographe, rien de tout ça. Mais en attendant, ça permet vraiment de développer un esprit complexe, un esprit entier qui va prendre en compte l'ensemble en fait des acteurs qui rentrent dans ce schéma-là. Donc il y a la nature, mais il y a aussi l'homme, il y a aussi ces problématiques à lui de transport ou d'alimentation. Et en fait, du coup, de travailler ensemble et de mélanger toutes ces disciplines, ça permet vraiment d'avoir une vraie solution. Je trouve extrêmement intelligente qu'on n'aurait pas eu seul et qui, à mon sens, va être une solution pérenne, ça va tenir. Et c'est ça qui m'a plu dans ce master. Et en tout cas, à titre personnel, au dernier week-end, je me suis rendu compte qu'en échangeant avec des personnes que je ne connaissais pas, je commençais déjà à avoir, en fin de compte, cette espèce de en quelques mois, puisque c'est juste 2 mois, je commençais déjà à avoir cette espèce de gymnastique intellectuelle qui me disait, mais oui, mais alors il parle d'un sujet, mais alors par rapport à ce sujet-là, si on l'intégrait, qu'est-ce que ça ferait ? Et donc, du coup, je trouve que c'est une vraie force. Et puis, effectivement, comme dit Thomas, travailler avec des personnes de différents horizons, c'est très enrichissant.
Oui.
Ça nous permet, nous aussi, d'évoluer et de comprendre que ce qui est vraiment important, c'est de travailler ensemble, parce que c'est en travaillant ensemble avec les systèmes de gouvernance qui nous expliquent. C'est comme ça, en fait, qu'on arrive à trouver des vraies solutions.
Oui, c'est sûr.
Voilà. Que tout seul, on n'aurait pas trouvé.
C'est une belle initiative, en tout cas. C'est très, très bien. Ouais.
Donc voilà, pour quelle raison. Et puis après, j'ai eu Frédéric Blot, la responsable pédagogique, qui est punchy, qui a réussi à bien m'expliquer tout ça et qui m'a vraiment donné envie de participer à ce master.
Oui, on continue, on termine par un autre vieux, donc du coup...
Non, ils exagèrent, ils ne sont pas vieux.
Reprise des...
Non.
Si, tu peux le dire.
Non, mais la vieillesse, c'est un concept.
Mais à la radio, ça ne se voit pas,
non. Non, mais on est jeunes.
À la radio,
ils sont jeunes dans leur tête.
Non, ouais.
C'est plus important.
C'est tout ce qui compte.
Donc, ouais, moi également, reprise d'études, du coup, dans une reconversion professionnelle. Moi, j'avais fait des études en économie jusqu'à un niveau, enfin, l'équivalent d'un master aujourd'hui, un master 1, il y a donc une maîtrise. Puis j'ai travaillé dans la banque, moi aussi, on ne se connaissait pas avec Isabelle, mais moi aussi dans une banque, mais qui n'a pas fermé, qui est toujours là.
Cousin,
mais
ils t'ont proposé des contrats.
Voilà, donc dans la banque, le domaine bancaire, j'ai fini par être conseiller, un expert agricole ou quelque chose comme ça, je ne sais pas comment, voilà, ou conseiller clientèle agricole, voilà, pour faire simple. Et la problématique des agriculteurs, quand même, va moins le marquer, l'isolement, la difficulté de travailler, un travail difficile qui ne rapporte pas grand-chose. Il y avait des gens qui ont des valeurs extraordinaires et sur lesquelles, aujourd'hui, on peut rapidement taper parce que, par incompréhension aussi des problématiques environnementales, mais de consommation, etc. Donc ça m'a un peu... Enfin, ça m'a marqué, ça me chagrinait un peu, le domaine bancaire étant plutôt compliqué, on va dire. J'ai décidé de me reconvertir, de me jeter à l'eau et de reprendre mes études pour finir avec ce Master 2. Et effectivement, comme l'a dit, comme l'ont dit tous mes collègues, je ne vais pas le réexpliquer, mais l'approche systémique, la complexité, etc., et avoir des talents différents, tout ça permet quand même de trouver des solutions qui sont peut-être plus originales et de mieux cerner les problématiques. Et ça, c'est quand même, je pense, l'avenir que nos gouvernants devraient prendre en considération, parce que je crois que c'est vraiment comme ça. On ne peut pas être spécialiste de tout, c'est improbable. Donc il faut savoir appeler le spécialiste qui va pouvoir vous aider, vous accompagner. Et je crois que c'est ça qui fait notre force. Et franchement, et puis les enseignants sont là aussi pour nous accompagner dans cette démarche-là, quoi, de vraiment avoir une approche complexe, systémique, ouais, encore une fois. Voilà. Donc chacun amène sa petite pierre à l'édifice et je trouve que l'édifice tient bien pour l'instant.
Bah, c'est bien, oui, d'avoir une vue d'ensemble. Voilà, ce master comme ça de...
Ah oui,
toucher à tout et arriver à avoir une réponse globale au problème.
Et oui, on peut prendre des étudiants d'SVT après en M2 voilà, pour mettre un petit côté social aussi, ça peut être pas mal.
Pourquoi pas
Ouais, mais en tout cas, c'est super bien de voir des gens qui organisent des choses sur l'environnement, tout ça, parce que moi, personnellement, je suis très attaché à ces causes environnementales, l'écologie, tout ça. Mais plus à titre personnel, un peu militant, en fait, mais voir vraiment des gens qui étudient sur ça, qui font des actions sur ça, c'est très plaisant, quoi.
Mais les deux sont pas antinomiques, hein. On peut être militant.
Oui,
non,
bien sûr.
Tu vois,
je me sens un peu moins seul, on va dire.
Exactement. Tu es le bienvenu.
Et ça me donne vraiment envie d'aller voir. D'aller voir votre projection.
C'est le but. Super.
Et donc, du coup, oui, je rappelle la projection qui aura lieu, la date.
Jeudi 28.
Jeudi 28 novembre.
Jeudi 28 novembre, 18h30, à la salle Arcée de la scène nationale d'Albi.
D'Albi, voilà. C'est parfait, voilà. Et on peut, bien sûr, j'imagine, vous retrouver toutes ces informations sur les réseaux sociaux.
Ouais, oui, on a créé justement un événement public qui est
sur Facebook.
On l'a également partagé sur le groupe Facebook de la ville d'Albi. Voilà, il est sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez retrouver l'événement. Il y a les informations qui sont dessus, donc
sur Facebook, je pense qu'il faut taper Festival Alimentaire. Alimentaire, oui, la petite subtilité d'alimentaire, c'est A-L-I-M-E-N et Terre, T-E-2-R-E, comme la Terre,
comme la planète, exactement.
Oui. Bah, merci à tous et on se retrouve donc le 28 pour la projection à la scène nationale d'Albi.
Merci beaucoup.
Merci.
Radio Champeau, la radio étudiante de l'université Champollion d'Albi.
Suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Champeau sur Radio Albigès. Et tout de suite, on enchaîne avec le premier épisode d'une toute nouvelle chronique présentée par Zoé.
et elle s'appelle Au Naturel.
Merci Loïs et bonjour à tous. Bienvenue dans Au Naturel, une chronique qui vous emmène à la découverte d'initiatives positives en faveur de l'environnement à la fac et sur Albi, et en espérant qu'elles essaimeront partout ailleurs. Tout cela pour montrer que nous pouvons tous, à notre échelle, faire quelque chose pour le vivant.
Cette semaine, tu voulais nous parler d'un projet que tu as toi-même réalisé. C'est la création d'un groupe jeune à la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux du Tarn.
Oui, tout à fait. Ce groupe s'adresse aux jeunes amoureux de nature de 18 à 35 ans. C'est d'abord un groupe pour se retrouver entre jeunes et partager sa passion pour la nature. C'est peut-être aussi un moment d'échange autour de cette passion, car chacun peut apporter sa connaissance sur un groupe d'espèces en particulier. Je pense aux insectes, aux oiseaux par exemple. Ce groupe servirait donc à échanger et développer ses connaissances naturalistes. L'idée serait aussi de faire ensemble des actions de protection de la nature sur le campus d'Albi, car j'aimerais qu'il soit basé ici même à la fac.
D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ce groupe ?
Alors attention Loïs, c'est assez précis, alors suis-moi bien. C'est un collectif composé d'étudiants, mais qui est rattaché à l'association LPO Tarn. L'association LPO Tarn, c'est une antenne locale de la LPO France, qui est l'organisme national auquel sont rattachées toutes les antennes locales. La LPO est donc présente dans de très nombreux départements et agit pour les oiseaux, mais aussi pour la biodiversité en général, à travers différents programmes. Par exemple, il y a les refuges LPO, pour favoriser la biodiversité dans son jardin. Il y a aussi le programme qu'on appelle « Des terres et des ailes », pour accompagner les agriculteurs dans une pratique agricole plus écologique. La LPO sensibilise aussi le public à la protection de la nature, par exemple en organisant des balades en pleine nature. Si vous souhaitez en savoir plus, allez sur le site internet de la LPO Tarn.
Et donc du coup, d'où est venue l'idée de créer ce groupe jeune ?
Eh bien pour la petite histoire, j'étais au congrès national de la LPO fin juin et j'ai rencontré d'autres groupes jeunes qui s'étaient déjà créés dans toute la France. Ils ont raconté ce qu'ils faisaient comme action, des sorties nature surtout, et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Comme il n'y en avait pas à la LPO Tarn, j'ai décidé d'en créer un. Et il a été fondé le 9 septembre 2019, c'est donc tout récent.
Ah, et bien, félicitations. Et alors, c'est quoi le programme de ce tout nouveau groupe jeune ?
Alors, les projets à venir ne sont pas encore bien définis. Je compte organiser une réunion de lancement courant novembre-décembre pour réunir les personnes motivées par le projet et définir le programme d'activité. J'ai déjà quelques idées. Par exemple, j'aimerais bien faire de l'université un refuge LPO pour faire vraiment un véritable partenariat avec la fac.
D'accord, donc beaucoup de projets sont à venir. Comment on fait pour retrouver toutes ces informations ?
Donc si vous avez envie de participer ou d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse groupejeune.tarn@lpo.fr. De toute façon, toutes ces informations et les contacts sont à retrouver sur la page Facebook de Radio Champeau.
Très bien, merci pour toutes ces informations. Tout de suite, on passe au « Qui suis-je ?»
Oui, tout à fait. Le « Qui suis-je ?» et c'est notre petit jeu chaque semaine en fin de chronique. Je vous propose le portrait d'un animal mystère qu'il vous faudra identifier. Vous pouvez bien sûr, évidemment, participer derrière votre poste. Alors, devinette. Je suis un oiseau de petite taille. Je vis aussi bien dans les bois que dans les parcs et jardins des villes. Mon alimentation se compose de vers de terre, de petits insectes et de baies. J'adore chanter le matin très tôt et mon chant très mélodieux est vite remarqué par ma compagne entièrement brune. Mon plumage à moi est totalement noir, mais nous avons tous les deux le bec jaune. Alors, vous avez des idées ? Bon, on va vous donner un autre indice, on va écouter son chant. Alors, aviez-vous deviné ? Loïs, tu as une petite idée ?
Pas du tout, je n'ai aucune idée.
C'est le merle noir, un hôte très commun de nos jardins.
Effectivement, je n'aurais jamais trouvé, je ne suis pas très très fort en oiseaux.
Oh, quel dommage !
C'est pas grave. Hein. Eh bien, on approche de la fin de ta chronique, Zoé. Et pour conclure, tu nous as sélectionné une petite citation ?
Alors oui, cette semaine, c'est une citation de Stanislas Jerzy-Leck qui nous dit « Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais responsable. C'est une phrase qui a été reprise par Sea Shepherd France, une ONG de défense de la vie marine et des océans, pour sensibiliser à la pollution plastique. Cela nous rappelle que face à notre environnement quotidien, nous sommes tous concernés. C'est la fin de ma chronique, j'espère qu'elle vous a plu, et je vais essayer d'en faire une chaque semaine, que vous pourrez réécouter en podcast, comme toutes nos émissions.
Eh bien, merci beaucoup Zoé pour ta magnifique chronique, et on attend avec impatience la prochaine chronique de Au Naturel.
Radio Champeau, la radio étudiante de l'université Champollion d'Albi.
Suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau.
Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle mission. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook Radio Champeau pour suivre toute l'actualité sur le campus de la fac Champollion d'Albi. À la semaine prochaine.